Jésus, pour voir ta puissance, pour voir ton amour, pour voir tout ce que nous avons besoin pour apporter ton royaume dans cette vie. Amen.
Amen. J'invite Raymond. Merci Raymond d'avoir préparé quelque chose. On t'a payé?
Oui, bien sûr. D'accord. Donc, au minimum, le paiement viendra au ciel, au minimum.
Ah, c'est bien répondu.
Mais oui, c'est peut-être l'essentiel.
Oui, tout à fait. Je vais prier. Père, je te loue de bénir, de nous avoir donné les Écritures, mais aussi les serviteurs qui nous transmettent ton message. Et je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses répondre à nos questionnements. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Et je vais demander ton esprit maintenant dans le cœur des personnes, mais aussi sur Raymond, afin qu'il puisse délivrer son message. Amen.
Amen. Merci. Merci bien d'avoir commencé avec le bimère. Il y a une année environ, c'était presque la même date, on m'avait demandé d'apporter ici une prédication. Et j'avais choisi le thème de la première épître de Jean, les premiers versets, parce que je trouve que c'est une épître qui a beaucoup à nous apporter, surtout dans notre contexte actuel. Mais je n'avais pas tout dit à l'époque, c'était les premiers versets, et aujourd'hui, j'ai l'intention de continuer un peu. Mais comme beaucoup n'étaient pas là, et puis il y a une année de cela, donc vous avez certainement oublié si vous étiez là, et il n'y a aucun reproche à vous faire, bien sûr, j'aimerais quand même faire un tout petit rappel rapide de ce que j'avais dit, parce qu'il est essentiel pour comprendre le message de cette épître. Alors tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Qui est l'auteur ? On ne le sait pas directement. Il est question de... On l'a attribué à Jean, premier épître de Jean, Jean l'apôtre, mais il ne signe pas son texte comme Paul le fait, moi signé de ma main, Paul, etc. Il y a beaucoup d'aspects communs avec l'évangile de Jean, ce qui fait qu'on a attribué à l'apôtre Jean, au fond, l'évangile, cette lettre, la deuxième, la troisième aussi, de même que l'Apocalypse. Alors, il s'est défini lui-même ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont palpé. Il s'agit de la parole de la vie. Donc, c'est un témoin oculaire. Jean, on va dire que c'est Jean, c'est le plus simple, ne dit pas « j'ai reçu par tel ou tel message », mais il montre qu'il a participé lui-même à quelque chose d'extraordinaire, ce qu'il a vu de ses yeux avec d'autres. Il parle du « nous » qui n'est pas le « nous » de majesté, « nous Raymond Glore », etc. C'est le « nous » collectif, il n'était pas tout seul. Et il a vu des choses, il a entendu et il a contemplé ce que ses mains, nos mains ont touché, ont palpé. Nous avons donc un témoignage ici qui est de la première heure. Et c'est très important parce que le texte que nous allons examiner un tout petit peu, eh bien, il met plusieurs choses en question par rapport à cette révélation de cette parole de la vie qui est Jésus-Christ venu de Dieu. Les buts de l'épître. Alors, j'en vois deux essentiellement qui sont intimement liés. Tout d'abord, une dénonciation. Dénonciation de quoi ? On va le voir tout à l'heure. Et ensuite, un affermissement de la foi pour les chrétiens. À l'époque, on est à la fin du premier siècle déjà. Il s'était développé déjà des courants fortement anti-chrétiens à l'intérieur de l'Église, dont le gnosticisme. Le gnosticisme qui vient du grec gnos, la connaissance, était né il y avait un ou deux siècles auparavant dans le Moyen-Orient et il prétendait apporter une connaissance supérieure à ce que pouvait apporter l'Évangile. En particulier, la question était « Qui est Dieu ?» Alors, pour les gnostiques de cette époque, il y avait un Dieu qui était le Dieu de l'Ancien Testament, qu'on appelait Yahvé, quelque chose qui ne vous est pas inconnu. Mais ce Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu mauvais. C'est un Dieu retors, un Dieu caché, un Dieu auquel, au fond, il vaut mieux pas trop se confier, pas avoir confiance dedans. Il existe un Dieu bon, qui est le Dieu de Jésus-Christ. Mais ce Dieu-là, il est parfaitement inconnu. Il est dans les sphères très hautes, on ne l'approche pas. Qui est Jésus-Christ ? Alors, il faut distinguer Jésus et Christ. Il y avait l'homme, Jésus, né à Nazareth, un homme qui a été habité par le Christ pendant plusieurs années, jusqu'au moment de la croix. Sur la croix, le Christ s'est retiré de Jésus et il n'est mort qu'un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. Vous sentez là-dedans un tout petit peu des choses qui ne sont pas tellement évangéliques. Et il y a une dichotomie, il y a une opposition entre la matière qui est mauvaise. Par définition, pour les gnostiques, la matière est mauvaise. Et elle entre en conflit avec ce qui est, disons, du domaine peut-être de l'intellect, de l'esprit, etc. Gnose, c'est connaissance, c'est initiation. Donc, le palpable étant mauvais, le corps est mauvais et tout ce qui va avec. Ce qui a pour conséquence deux choses. Soit on tombe dans le laxisme, c'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, puisque le corps et l'intellectuel, la connaissance, etc., sont deux choses séparées complètement, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre. Donc, on peut vivre plus ou moins comme on veut. L'autre aspect, c'est l'ascétisme. Alors là, je me garde de tout contact charnel, quel qu'il soit, car c'est se souiller. Le mépris du mariage, mépris des enfants, la procréation et tout ce qui peut aller avec. Donc, on reste pur, pur de toute la matière, de tout ce qui est. Donc, deux tendances dont on constate qu'elles ne sont peut-être pas forcément très loin de nos jours. Et c'est une religion pour initier. On n'entre pas comme ça dedans, c'est plutôt pour une élite, des gens qui, eux, auront la connaissance. On est loin de l'évangile pour tous. Oui, c'est par des approches peut-être plus ou moins mystiques qu'on va entrer là-dedans. Mais il ne faut pas se leurrer. Les influences de ceci demeurent jusqu'à aujourd'hui. On en trouve des traces, par exemple, dans l'islam. L'islam qui ne reconnaît pas un Jésus crucifié sur la croix, n'est-ce pas ? Nous retrouvons exactement la même idée. Au moment où Jésus meurt, le Christ s'est retiré de Jésus. Et il y a beaucoup d'autres choses ainsi qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui dans différents mouvements qui sont parfois qui ont une teinte chrétienne, parfois absolument plus de teinte chrétienne. Mais ce qui est important de retenir, justement, c'est que Jean, il n'invente pas des choses. Il a vécu des choses et là-devant, il va prendre le contre-pied. D'où les buts de l'Épître. Ce premier but, lutter contre cette fausse doctrine qui est le gnosticisme, et un deuxième aspect qui est fortement lié, la recherche de la communion avec Dieu et entre frères et sœurs. 1 Jean 1, 3 à 4, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Intéressant. Ça a été écrit au 1er siècle. Communion avec nous, et ça nous interpelle au travers de 2000 ans d'histoire. C'est exactement à cela que nous sommes appelés à vivre, la communion entre frères et sœurs. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cela, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète. Il y a donc quelque chose d'extraordinaire là derrière. Ce qui était évidemment négatif, à quelque part, Jean ressort quelque chose de positif de cela. En contre-pied, je dirais en contre-jour à ses affirmations, il ne se gêne pas de réaffirmer qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait. Et cela, pour notre communion ensemble, et avec tous les enfants de Dieu depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sur la terre, mais aussi, et bien plus, avec celui qui a fait les cieux et la terre, dont on a entendu un petit quelque chose tout à l'heure. Ce n'est pas le Dieu inconnu, un Dieu mauvais, c'est un Dieu bon. Il y a une petite, même assez grande différence entre ces épîtres de Jean, celle-là, et les épîtres de Paul. Lorsqu'on lit cette première de Jean, on est assez facilement dérouté, parce que son style est bien différent de celui de Paul. Paul, comme un rabbin, va argumenter, et parfois il amène même des raccourcis. Je pense dans l'épître aux Galates, par exemple, lorsqu'on fait le raccourci entre Agar et Sarah, la fille de l'année de l'esclavage, l'enfant né de la promesse, etc. C'est typiquement rabbinique, ce genre d'explication. Nous, on n'est pas formés à cela. Mais ces explications sont assez logiques quand on entre dedans. Pour Jean, ce n'est pas la même chose. Et vous ferez attention en lisant le texte tout à l'heure. Jean affirme des choses. Il ne cherche pas à les démontrer. Il affirme, c'est comme ça et pas autrement. Et ça, on va le trouver d'une façon régulière dans toute cette épître. Alors, il ne met pas de gants dans ce qu'il dit. C'est une lumière souvent focalisante, très forte, qui nous est proposée et qu'on est appelé à admettre telle qu'elle. Un mode de vie. Comment vivre le but? Dieu est lumière. Voilà peut-être une assertion qui vous surprend quelque peu. On va essayer de la découvrir ensemble dans le texte qui nous est proposé. Alors, à l'écoute du texte, 1 Jean 1, 5 à 10. Le message que nous avons entendu de lui, de Dieu, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, c'est un peu surprenant cette introduction. Le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. On aurait pu s'attendre peut-être à autre chose. Ce célèbre, qu'on va trouver plus loin dans l'épître, « Dieu est amour », c'est que dans cette épître, on va la trouver deux fois, on le comprend, mais l'expression « Dieu est amour », elle nous parle peut-être davantage que « Dieu est lumière ». J'ai essayé de réfléchir un tout petit peu pourquoi, au fond, l'apôtre commence ainsi « Dieu est lumière ». Alors, il ne le dit pas directement, mais je pense qu'il y a... Premièrement, une opposition avec ce que je viens de dire. Ce Dieu de l'Ancien Testament, selon les gnostiques, qui est un Dieu de ténèbres, eh bien non, dit Jean, il n'est pas un Dieu de ténèbres, c'est un Dieu de lumière. Et il ajoute, il n'y a pas en lui de lumière. Mais de quelle lumière est-ce qu'on parle? André nous a parlé tout à l'heure du soleil et de l'intérieur du soleil qui a une puissance une énergie, disons, absolument incroyable. Et vous le savez peut-être, il y a des étoiles qui sont 1 million de fois plus brillantes que le soleil. Alors, des dimensions qui nous échappent totalement. On n'arrive absolument pas à se rendre compte de quoi il s'agit. Alors, est-ce qu'il s'agit de cette lumière-là dont il est question? Moi, je pense que cette lumière-là est un reflet de ce qu'est Dieu. Parce que Dieu, il est lumière, mais c'est vrai, il n'est pas une lampe de poche, une super lampe de poche, on est d'accord. Dieu est une lumière, je dirais, c'est la lumière intégrale, celle qui caractérise Dieu directement, devant qui il n'y a aucune ténèbre. Il n'est pas possible de se tenir devant Dieu dans les ténèbres. Alors on a cité tout à l'heure que du Dieu de justice, Jésus, la lumière du monde. Et ici, on va encore plus loin. Fondamentalement, Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Et ça, il nous faut bien le garder à l'esprit. Dans beaucoup de livres ésotériques, même pas de romans, etc., assez facilement, Dieu, quand il en est question, est quelqu'un de caché, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai, nous ne pouvons pas le connaître directement, si ce n'est au travers de la parole et de Jésus-Christ, qui est la révélation de Dieu. Mais en tant que tel, Dieu est souvent mis en question dans ce qu'il est, ce qu'il a fait. Alors il faut le comprendre, Dieu est lumière, c'est une lumière morale, une lumière spirituelle, hein, qui ne souffre aucune dissimulation. Et j'aimerais juste relever que les ténèbres, qu'est-ce que c'est les ténèbres ? Eh bien c'est là où Dieu n'éclaire pas, tout simplement. Les ténèbres, on n'arrive pas à les créer. Vous pouvez, avec une lampe de poche, vous pouvez créer la lumière à quelque part, mais vous ne pouvez pas créer de lumière, de ténèbres. La ténèbre, c'est là où il n'y a pas de lumière, justement. D'où la question, enfin, qu'on connaît le prince des ténèbres, celui qui tient totalement en dehors de la lumière de Dieu, alors que Dieu est lumière. Et c'est à cela qu'il nous invite. Il y avait certainement trois attitudes par rapport à cela. Les premiers, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Dieu, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Alors, ça paraît tellement évident, ceci, pour nous peut-être, qu'on a la peine à se dire comment peut-il y avoir des gens qui pourraient se dire chrétiens et qui vivaient dans les ténèbres. Alors c'est vrai, j'espère que cela ne nous touche pas, mais il ne s'agit pas d'aller trop vite quand même. La lumière absolue devant Dieu, si on est très vrai, nous, est-ce qu'on désire toujours être dans la lumière ? Alors, on ne va pas faire une introspection continuelle, mais parfois, un tout petit peu d'obscurité pourrait nous arranger. On est d'accord ? Parfois, il y a des choses, on est mieux que ça ne soit pas trop su, etc. Hein ? On est tous la même chose. Ce qui nous est dit ici, si nous marchons dans les ténèbres, donc la marche, c'est une poursuite. Ce n'est pas simplement peut-être tomber dans quelque chose. Alors, on doit se garder, bien sûr, de ces ténèbres-là. Mais le texte nous parle de marcher dans les ténèbres. Il ne s'agit pas ici, simplement, d'avoir une faiblesse. Quand bien même la faiblesse, on le verra peut-être tout à l'heure, mais on ne peut pas la mettre simplement de côté, la balayer. Mais ça va plus loin que ça. Est-ce qu'il est possible qu'on trouve cela aujourd'hui ? Alors, moi, je ne vais jeter la pierre à personne, mais c'est vrai que j'ai connu quelques cas de personnes qui étaient fondamentalement engagées dans la foi chrétienne et qui, malheureusement, à ce niveau-là, ont dévié. Et ça a eu souvent des conséquences tragiques pour eux et pour ceux qui les entouraient. Alors, je pense qu'il y a là une réflexion et une injonction à nous particulièrement qui sommes les enfants de chrétiens. On n'a pas connu peut-être ces ténèbres avant, et puis on risque peut-être de se laisser entraîner par des amis, par des lectures, par le travail, par quantité de choses, dans des voies qui ne sont pas ces voies que Dieu aimerait, qui ne sont pas ces voies de lumière, mais qui sont des voies de ténèbres. Alors en disant cela, je ne vise personne, car moi-même, je me dis souvent, qu'est-ce qui en est de toi ? Est-ce que ce que tu fais, ce que tu dis correspond à ta vie réelle avec Dieu ? Est-ce que tu vis dans cette lumière avec Dieu ? Ce n'est pas d'introspection continuelle, mais il peut arriver, c'est vrai, qu'on se trompe. Alors on va le voir tout de suite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il y a presque quelque chose d'automatique. Si nous marchons dans la lumière, il n'y a pas de raison de dissimuler quelque chose les uns aux autres. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Mais l'apôtre nous connaît, il se connaît lui-même. Il invoque tout de suite le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Parce que la communion entre nous, la communion dans un couple, la communion entre nous, la communion avec les autres chrétiens, c'est quelque chose d'excessivement délicat, la communion avec Dieu. Il suffit de pas grand-chose pour rompre cette communion, pour y mettre un barrage quelconque. Ça peut être une parole, ça peut être une attitude, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui vienne mettre une ombre là-dessus. Raison pour laquelle tout ne va pas comme ça. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. S'il y a une ombre qui vient, on n'est pas appelé à le dissimuler sous le tapis, mais à l'avouer, à se retrouver devant Dieu pour vivre justement cette communion entre nous, cette communion avec les autres. Et c'est essayer d'éviter que quelque chose nous distraie de cela. Nous poursuivons la lecture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Est-il possible de dire qu'on n'a pas de péché? Je souligne, on n'a pas de péché. J'imagine qu'on a ici une réponse de Jean à ces personnes qui pensaient ou qui vivaient dans le laxisme, qui avaient fait cette partition entre leur vie corporelle et leur vie mentale, spirituelle, intellectuelle, comme vous voulez, en se disant, on n'a pas de problème. Et peut-être que si on les avait interpellés là-dessus, ils auraient dit, non, moi, mais je n'ai pas de péché. Le péché, c'est quelque chose qui m'est inconnu. De toute façon, il y a une différence entre l'un et l'autre. Vous savez, on sait bien que Dieu, il n'est pas très bon. Et puis, moi, je vis comme je veux, j'ai toute liberté de faire ce que je veux. N'essayez pas de m'accuser de ceci ou de cela. Alors, c'est certainement une attitude qui est mauvaise. Celui qui dit cela, dans notre langage actuel, on dirait qu'il se met le doigt dans l'œil, même très profondément. Nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Vivre une telle vie, on le comprend. Bien sûr, par toute notre éducation, on comprend que ce n'est pas en ordre. Mais il est facile quand même, de rejeter, dire « ces gens n'avaient rien compris ». Pour nous, facilement, également, on pourra peut-être se laisser tenter par ceci et cela. Alors, que nous dit le texte suivant? Si nous reconnaissons, si nous avouons, confessons nos péchés, il, Dieu, est fidèle et juste, et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Et là, il y a quelque chose de très fort, je l'ai écrit en rouge. Pourquoi? C'est quelque chose que chacun de nous devrait connaître par cœur. Ce verset, nous devrions absolument le connaître par cœur. Il est à la base de notre vie de tous les jours, de notre vie, je dirais, continuelle. Il ne s'agit pas de faire de l'introspection continuelle, c'est vrai. Mais il peut arriver, on se rend compte, soit qu'on nous le dise ou par nous-mêmes, qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Alors que faire? Est-ce le cacher, le dissimuler? Non, il s'agit de le reconnaître ou avouer, confesser. Je dirais confesser ici, ce n'est pas dans le sens catholique qu'il faut aller vers le prêtre qui seul est capable de nous dire « oui, tu es pardonné ». Il s'agit de le confesser, si c'est une personne à laquelle on a fait tort, d'aller vers elle, mais avant tout de se retrouver devant Dieu et devant le Seigneur. C'est ça qui est important, ce n'est pas un être humain. Mais nous, dans nos milieux protestants, évangéliques, on n'a pas du tout l'habitude de la confession à quelqu'un. Et il est vrai que la confession à une personne peut aider aussi à sortir et à aller plus loin. Retenez bien ce verset, frères et sœurs. Il n'y a pas d'enfants ici, pas beaucoup de jeunes, mais s'il y a quelques-uns quand même, rappelez-vous de ce verset qui est pour votre vie. Si tu reconnais ton péché, il est fidèle et juste et digne de confiance, il te pardonnera ton péché et te purifiera de toute injustice. Nous remarquons ici qu'il n'y a pas de limite. Il n'est pas dit « ça ira jusque-là, jusqu'à tel moment ou parce qu'il y a ceci ». Il nous pardonnera de toute injustice. Il y a un absolu là derrière sur lequel nous pouvons bâtir notre vie. Et nous pouvons toujours revenir à cela. Et continuellement, il nous faut revenir à ces affirmations-là. Et puis, il y a celui qui dit « moi, je n'ai pas péché ». La différence avec avant, il disait « moi, je n'ai pas de péché ». Celui-là, le troisième, dit « moi, je n'ai pas péché ». Alors, je pense que c'est une réaction à cette forme d'ascétisme. On vit dans une tour d'ivoire. Et dans une tour d'ivoire, n'est-ce pas, on est inatteignable. Qu'est-ce qu'on veut pouvoir nous reprocher ? Moi, je fais absolument tout pour vivre en communion avec Dieu. J'ai renoncé à tout. Dans ma vie, là, dans la vie particulière, peut-être sexuelle, c'est l'abstinence. Et puis tout ce qui peut tourner autour, eh bien voilà, nous on est retirés. Qu'est-ce que vous voulez nous reprocher de plus ? On dirait presque entendre des vaudois, hein, je n'ai ni tué ni volé, qu'est-ce que le bon Dieu peut me vouloir encore ? Et là c'est une attitude dont Jean dit, nous faisons de Dieu un menteur. Parce que cette attitude-là, elle est totalement incompatible avec la foi. Et celui qui est là, non seulement il se met le doigt dans l'œil, très loin, on pourrait dire jusqu'au coude, même les deux yeux. En fait, il fait de Dieu un menteur en disant, tu prétends que moi je pourrais pécher, mais je me suis tellement retiré de tout que le mal ne m'atteint pas. Qu'est-ce que tu me veux encore ? Alors il est vrai que cette attitude-là, on la retrouve peut-être pas trop. Mais attention, chez nous, chrétiens, on risque de tomber un peu dans ce genre d'attitude. En ayant un certain mode de vie, on a parfois de la peine à comprendre et admettre que l'autre, qui est mon frère et ma sœur, ait une vie un peu différente, qu'il ne fasse pas ceci, pas cela. On a de la peine à l'admettre. Paul va le dire aux Colossiens. Vous dites, mais ne faisons pas ceci, pas cela, etc. Vous vous mettez des barrières comme cela et vous pensez que vous êtes mieux devant Dieu. Il leur dit, mais c'est une erreur fondamentale. Paul combat déjà, dans l'Épître aux Colossiens, cette façon d'être. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il va dire, je ne sais plus si c'est les Colossiens ailleurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis dans la mesure où on reste dans cette lumière de Dieu. Tout est permis. Il y a des choses neutres dans la vie. Le fait d'aller en voiture n'est pas un péché. Ça vous fait sourire peut-être. Au 19e siècle, début du 20e, il y avait des personnes qui pensaient que prendre une voiture, c'était un péché. Le cinéma en tant que tel, moi j'ai été élevé hyper strictement, hein, n'est-ce pas ? On n'a jamais mis les pieds au cinéma, ou presque jamais, parce que c'était le monde. En soi, c'était le monde. Maintenant, j'ai un petit peu changé. Je ne vais pas bien souvent au cinéma, mais disons, il y a des bonnes choses, il y a des choses mauvaises, oui, mais le fait même, le concert, on n'y mettait jamais les pieds parce que c'était le monde, sauf peut-être les concerts à la cathédrale où là, c'était dans un lieu chrétien, puis c'était de la musique, il n'y avait pas besoin de payer beaucoup, moi j'avais 50 centimes que je mettais à la sortie, alors là, ça passait peut-être. Bon, je ne dis pas que mes parents étaient hypocrites, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ce genre d'attitude-là, il est fondamentalement opposé à la foi. Tout n'est pas mauvais dans le monde. Il y a des choses à laquelle on peut s'intéresser légitimement sans être dans les ténèbres, sans qu'on doive se dire « j'espère que Dieu va me pardonner », etc. Enfin bon, sinon on ne vit plus, tout simplement, on est appelé à vivre dans la lumière. Et ne mettons pas des ténèbres là où il n'y en a pas. Nous avons vu ces trois attitudes, celui qui méconnaît Dieu, celui qui méconnaît son corps, celui qui sortir dans ses tours d'ivoire. Et alors, l'apôtre termine par ces deux versets que je trouve très beaux. Mes enfants, c'est un père qui écrit, mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Vous direz, c'est évident. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur, un avocat, ça vous rappelle quelque chose, auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Quand Jean écrit cela à la fin du premier siècle, il a déjà en vue tous les siècles qui vont venir, tous les chrétiens. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Au temps de Paul, on pensait que le Seigneur reviendrait très rapidement. On a les années ont passé, les dizaines d'années, fin du premier siècle. Il n'est pas encore revenu. Alors je pense que les apôtres ont compris que peut-être Dieu reviendrait beaucoup plus tard. C'est une exhortation bienveillante. Je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Par ses façons d'être. Comme dit, ne faisons pas cette introspection continuelle, mais plaçons-nous quand même continuellement devant Dieu, dans la lumière de Dieu, et qu'il nous éclaire s'il y a quelque chose qui n'est pas en ordre. Si quelqu'un vient à pécher, c'est évident, à la limite l'apôtre le sait, vous ne pourrez pas vivre sans déroger ici ou là, ce n'est pas possible. Ceux qui disaient « nous on n'a pas péché, on n'a pas de péché », Jean vient de leur dire, vous êtes des menteurs. Donc, notre vie, malheureusement, elle est empreinte de défaillance, c'est vrai. Mais nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi du monde entier. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour n'importe qui ici-bas. Et Paul ne dira pas autre chose que cela. Partout, on va retrouver cette notion que Jésus est notre défenseur. Et nous avons ici une affirmation très forte par rapport à la personne de Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vous disais que les gnostiques, à l'époque, ne voyaient pas dans le Christ, Jésus sur la croix, le Christ. Ils s'étaient séparés. Alors le texte nous dit ici totalement autre chose. Jésus est lui-même l'expiation pour nos péchés. J'étais étonné en lisant récemment un livre sur Vinet. C'était, vous savez, Alexandre Vinet, ce théologien vaudois qui a été à la base avec d'autres de l'Église libre. Après, il y a eu réconciliation, fusion, ce n'est pas là notre problème. Mais j'ai été étonné, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, de voir que vers la fin de sa vie, Vinet n'était plus d'accord avec cette notion d'expiation de Jésus. Pour lui, c'était quelque chose un peu d'incompréhensible. Et si vous lisez certains écrits aujourd'hui, l'expiation telle qu'elle nous est présentée ici, on n'y croit plus tellement. C'est quelque chose de passé, c'est quelque chose qui correspondait peut-être à une certaine forme de compréhension, mais par certains théologiens, elle est fortement mise en question. Alors, libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Pour moi, je le prends pour moi-même, Jésus a été l'expiation pour mes péchés. Il est l'expiation pour vos péchés aussi. Alors, je vous propose simplement, on va mettre ce texte pour terminer, à la première personne. Mon enfant, et mentalement, vous allez mettre votre prénom. C'est Paulette, c'est Eberhard, c'est André, c'est Raymond, c'est Eric. Mon enfant, je. Alors, c'est Jean qui t'écrit. Mon enfant, à toi, je t'écris cela pour que tu ne pèches pas. Mais si tu viens à pécher, tu as un défenseur, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même l'expiation pour tes péchés, non pas seulement pour les tiens, mais aussi pour ceux de tes frères, de tes sœurs, ici dans cette Église, et aussi ceux du monde entier. Que le Seigneur vous bénisse.